Bonjour à tous. Le professeur Roland Reich s'est empêché et il m'a demandé donc aujourd'hui de dire quelques mots pour introduire cette conférence. Le professeur Juan Calatrava enseigne à l'Université de Grenade l'histoire et la théorie de l'architecture et du patrimoine. Il s'est intéressé aussi bien à la ville, telle que l'ont expérimenté Charles Baudelaire ou Émile Zola, qu'à la théorie des arts dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est dire que le spectre de ses intérêts est très large et qu'il ne conçoit guère l'histoire de l'art ou l'histoire de l'architecture comme une discipline repliée sur elle-même. Un des architectes pour lequel le professeur Calatrava manifeste un intérêt tout particulier est Le Corbusier. En France même, beaucoup de contresens continuent d'être répandus à propos de son œuvre ou à propos de l'homme lui-même. De son œuvre, c'est d'abord la machine à habiter qu'on a retenue, voire vilipendée. Vous êtes de ceux, monsieur le professeur, parmi les meilleurs spécialistes de Le Corbusier, qui ont contribué depuis quelques années à nuancer fortement cette image, et dans vos publications, et dans votre enseignement. Les deux conférences que vous allez donner ont, je crois, d'abord pour objectif de contribuer à éclairer la personnalité de ce grand architecte du XXe siècle. On vous doit notamment l'organisation d'une grande exposition qui s'est tenue à Madrid en 2006-2007, mais aussi la personnalité de cet urbaniste et de cet artiste complet qu'a été Le Corbusier. Pour lui, l'architecture trouvait son sens au sein d'une poétique. Et finalement, il a cherché à mettre lui-même en pratique l'idée née au XIXe siècle de la synthèse des arts, de l'œuvre d'art totale. Lors de la seconde conférence, que vous tiendrez la semaine prochaine, vous parlerez de ce que vous considérez comme l'expression la plus audacieuse et la plus originale, la plus méconnue aussi, de cette poétique, à savoir le poème de l'angle droit, dont vous avez par ailleurs publié un luxueux fac-similé. Les professeurs du Collège de France vous remercient d'avoir accepté leur invitation. Ils sont heureux de vous accueillir ici et de livrer ainsi au public la primeur de vos réflexions et de vos recherches sur ce grand créateur de formes que fut Le Corbusier. Et donc, au nom du professeur Roland Reich, du professeur du Collège de France, je suis très heureuse, je brise le son, je suis très heureuse, très honorée de vous remettre cette médaille du Collège de France.
Ah. Voilà. Merci.
Pour souvenir de ces belles conférences.
Merci, je vous remercie. C'est un grand honneur.
Merci. Je suis confuse, je n'aime même pas pouvoir rester. Je suis très confuse. Je dois préciser que la conférence du professeur est enregistrée. Et pour ceux d'entre vous qui sont donc familiers du site internet du Collège de France que nous essayons d'enrichir chaque jour davantage, vous pourrez donc réécouter sa conférence si vous le souhaitez très prochainement sur notre site internet. Voilà.
Merci. Merci. J'ai doute qu'il y aura quelqu'un qui pourrait réécouter la conférence. Merci. Au revoir. Bonjour. C'est vraiment un très, très grand honneur. Et pour moi, je suis vraiment touché. Et je dois, mes premiers mots sont sans doute pour remercier l'invitation du Collège de France et les grands honneurs qu'on m'a fait. J'ai dit, c'est un ami en Espagne qui est pour un chercheur, pour un historien de l'art, de l'architecture, comme c'est mon cas, et parler au Collège de France et comme pour un prêtre faire la messe au Vatican. Donc pour moi, je suis heureux et je vous remercie à l'institution et à tous. Pour venir m'écouter. Et je dois tout d'abord m'excuser parce que je dois demander vos excuses parce que je vais tenter de parler en français, mais mon français, c'est un français d'espagnol. Donc, sans doute, dans le cours de cette conférence, je vais commettre plus d'un crime contre votre belle langue, alors je demande vos excuses d'avance. Et je dois m'excuser aussi pour peut-être, c'est une hardiesse, venir de l'Espagne à vous parler de Le Corbusier à Paris. Mais par hasard, je me suis occupé assez de la figure de Le Corbusier. J'ai eu la chance de travailler dans un rapport très, très étroit avec la fondation Le Corbusier. Et j'ai eu la chance de montrer dans quelques expositions des aspects très, très peu connus de l'œuvre de ces grands maîtres à penser du XXe siècle. Donc, je vais vous résumer dans cette conférence les choses dont je m'ai occupé à propos de Le Corbusier. Et comme on m'a dit... Oui. Ah, avec ce micro... très bien. Merci. Donc, comme on a dit, il y aura deux conférences. Dans la conférence d'aujourd'hui, je vais vous parler comment, chez Le Corbusier, on développe l'idée de la synthèse des arts, comme cette idée de la synthèse des arts, c'est une idée absolument clé dans la pensée, dans la vision artistique de Le Corbusier, et dans la conférence qu'on fera vendredi prochain, et on montrera une vision monographique de l'œuvre que, à mon avis, résume très bien cette problématique, c'est l'œuvre, le poème de l'Anglais droit. Donc je commence à vous montrer cette belle phrase écrite de la main de Le Corbusier. Il n'y a pas de sculpteur seul, de peintre seul, d'architecte seul. L'événement plastique s'accomplit dans une forme une au service de la poésie. Voilà, résumé toute la poétique de Le Corbusier. Alors, les choses dont je vous parlerai aujourd'hui partent d'un grand mouvement de révision de l'idée presque caricaturale qu'on a reçue de Le Corbusier. Le Corbusier a été considéré pendant beaucoup d'années comme une espèce de brigand qui a voulu nous mettre dans des caisses étroites, l'apôtre du fonctionnalisme le plus dur, le plus exigeant. Et donc, à peine on gratte un peu cette caricature qu'on a fait du grand maître, on découvre, avec une grande surprise, que Le Corbusier est très, très loin d'être un fonctionnaliste réducteur, et vraiment un poète, un peintre et un artiste. Il a dit toujours dans plusieurs, dans beaucoup d'occasions, si vous voulez savoir qui je suis, alors vous devez me chercher dans ma peinture, pas dans mon architecture. Mon architecture ne se comprend pas, ne se peut comprendre sans regarder ma peinture, mes écrits, mes sculptures, mes tapisseries, mes émaux, donc tout un éventail d'œuvres plastiques. Voilà Le Corbusier avec Fernand Léger, et son grand ami, le peintre avec qui a eu des rapports les plus étroits, avec Picasso en visitant le chantier de l'unité d'habitation de Marseille. Et comme je vous disais, c'est tout un procès de révision historiographique de l'œuvre de Le Corbusier dans ses rapports entre architecture et peinture. Il y a des points très importants comme les rencontres faites par la Fondation Le Corbusier en 2004, l'expo à Genève, qui porte le même titre de cette conférence, Le Corbusier ou la synthèse des arts. Ça c'est le catalogue de l'expo que j'ai fait à Madrid il y a 3 ans sur le poème de l'Anglais droit. C'est l'œuvre que je vous montrerai d'une manière plus monographique vendredi prochain. Ça, c'est la couverture du fac-simile de Le Corbusier et la couverture du catalogue, du livre de titre des catalogues. Une grande exposition au musée Reina Sofia de Madrid, que je curé aussi. Une grande exposition à Rotterdam, dans le musée hollandais d'architecture. Et il y a des instruments de travail qui ne se trouvaient pas il y a peu d'années. Par exemple, les catalogues complets de l'œuvre peinte, faits par Madame Naïma Journeau, et publié à Genève, chez Skira. Et tout ça, toutes ces recherches, tout ça a porté à reconnaissance du caractère absolument polyédrique et multiforme de l'œuvre de Le Corbusier et à l'abandon de cette vision un peu réductrice, en sens un peu réductrice, tout à fait réductrice, et à une nouvelle valorisation des fondements poétiques de toute sa architecture. Maintenant, il faut finalement, on reconnaît que l'insistance de Le Corbusier même sur l'idée, sur l'importance de son œuvre plastique, c'est beaucoup plus qu'une simple phrase. C'est vraiment la clé de sa poétique. Le Corbusier a parlé de tout ça, comme je vous disais, dans plusieurs occasions. Par exemple, en 1953, le musée d'art moderne de Paris a dédié une grande exposition à l'œuvre plastique de Le Corbusier. Et c'est là, c'est à cette occasion-là, où Le Corbusier disait « Voici le produit de mon effort de peintre, réalisé chaque matin depuis 35 années. Unité inséparable de l'événement poétique manifesté dans une création inépuisable dans le plan des choses visuelles. Le fond de ma recherche et de ma production intellectuelle a son secret dans la pratique de la peinture. C'est là où il faut trouver la source de ma liberté d'esprit, de l'indépendance, de la loyauté et de l'intégrité de mon invention. » Et par exemple, dans un important texte, un article publié en 1960, où il parlait de ces tapisseries, on reparlera des tapisseries de Le Corbusier, que c'est une chose, je crois, absolument peu connue, sauf par les spécialistes. Et en parlant des tapisseries, Le Corbusier disait: le fond de ma recherche répète à peu près les mêmes mots, mais il dit tapisserie, dessin, tableau, sculpture, livres, maisons et plans de ville ne sont qu'une seule et unique manifestation d'une harmonie dans le sein de la nouvelle société machiniste. Donc, Le Corbusier est toujours pris dans l'idée de la synthèse des arts majeurs, une synthèse qu'il cherche depuis le commencement de sa trajectoire, mais qui a une cristallisation toute spéciale dans les années entre 1945 et 1955. Ce sont 10 années ou vraiment important pour la plasmation de cette idée. En 1945, il faut se souvenir la situation, tout le monde connaît, c'est une Europe, c'est un monde en ruine, et où Le Corbusier, comme tous les intellectuels du monde, doit repenser le monde. Il faut se souvenir, par exemple, de la demande que s'y faisait Theodor Wiesengrund Adorno, quand disait, se demandait, mais est-il possible encore écrire poésie après Auschwitz? C'est la grande question en 1945. Alors Le Corbusier, comme beaucoup d'artistes, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains, architectes, peintres, cherche un nouveau rôle, un nouveau lieu pour l'art dans cette espèce de reconstruction spirituelle du monde en 1945. C'est dans ce contexte où la vieille idée de la synthèse des arts reçoit une formulation tout à fait connectée avec cette problématique. Dans ces dix années entre 1945 et 1955, c'est un moment vraiment important pour la créativité de l'économiste. C'est un moment où il est fini des projets d'architecture comme les maisons Jaoul, la chapelle de Notre-Dame d'Io à Ronchamp, le palais de justice de la nouvelle ville indienne de Chandigarh, ou les maisons Sarabhai ou Chodan à Ahmedabad, aussi dans l'Inde. Mais ce n'est pas un hasard si Le Corbusier, dans cette époque, commence à penser toute une série de projets architecturaux spécifiquement liés au monde de l'art. Des musées, des galeries, des espaces d'exposition. Il faut lire donc comme des pièces d'une même réflexion, malgré que les solutions architecturales sont tout à fait différentes, parce que pour Le Corbusier, chaque projet d'architecture et de monde, c'est une chose tout individuel, mais malgré ces différences dans la solution architecturale, il faut lire comme des pièces d'une même réflexion le Musée national d'art occidental de Tokyo, les pavillons Philips à Bruxelles, avec le célèbre poème électronique avec Edgar Varèse et Giannis Xenakis pour l'Expo Bruxelles 1958, ou le Carpenter Center for Visual Arts de Harvard, ou bien finalement la maison de l'homme, les pavillons qui construit à Zurich pour sa marchande Heidi Weber. C'est un moment aussi d'une grande réflexion théorique. Et voilà les deux volumes, 1950 et 1955, des modulaires. Les modulaires, c'est, vous savez bien, une idée d'un nouveau système de mesures universelles qui serait équidistant si du caractère abstract du système décimal, si de l'anthropomorphisme du système pied-pouce. C'est une chose très, très connue, alors je ne m'arrête sur ça. En 1965, c'est aussi la date de publication du poème de l'angle droit, le grand livre que Le Corbusier, un grand livre d'art, que Le Corbusier considérait comme son vrai testament vital. Et je reparlerai, donc je ne m'arrête. Ce sont les années 50 aussi, un livre très, très peu connu, et un tout petit livre, poésie sur Alger. Le Corbusier, vous savez peut-être, avait fait beaucoup de plans urbanistiques de bâtiments pour Alger. Et après l'échec de tous ces grands plans, tous ces plans ambitieux d'urbanisme, Le Corbusier fait son adieu à Alger, la ville du rêve, de mariage entre l'Europe et l'Afrique. Alors, en 1950, il dit son adieu à Alger avec ses petits livres tout pleins de poésie, de dessins presque d'enfants, alors où les bétons des grands bâtiments, des plans urbanistiques est remplacé par les dessins artistiques. Donc, il faut revenir à cet idéal de la synthèse des arts majeurs. Et cette proposition d'une synthèse était déjà présente en 1923 à Le Corbusier dans son livre très célèbre, Berceau en architecture, ou en 1925. Dans les pavillons de l'Esprit Nouveau pour l'exposition internationale des arts décoratifs, mais c'est seulement à partir, comme j'ai dit, à partir des années 40, avec surtout les chocs de la guerre que le terme synthèse prendre une profondeur épistémologique et une complexité vraiment extraordinaire. Le point de départ de cette synthèse des arts, il faut le comprendre, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, ce n'est pas seulement une question de goût esthétique, de préférence artistique, mais une question enracinée dans l'idée du monde, dans la cosmovision même de Le Corbusier. Le Corbusier avait une très particulière idée du monde. Le Corbusier était surtout un dualiste. On dit dualiste en français. Il se considérait descendant des Cathares. Alors, il était convaincu qu'il venait d'une famille qui était chassée de la Provence pendant toute l'affaire des Cathares. Et ça peut être réalité ou peut être mythique, mais en tout cas, Le Corbusier voit toujours le monde en termes de dualité. Le masculin, féminin, le jour, la nuit, la raison, la passion. Excusez-moi. La lumière, l'obscurité, la terre, l'eau, tout ça. Alors, pour Le Corbusier, la synthèse, parler de synthèse et parler du rôle de l'artiste dans le monde contemporain. Le monde, pense Le Corbusier, est un monde absolument divisé, partagé, divisé en deux, avec une fracture très, très claire. Et alors, le rôle de l'artiste, c'est toujours de faire point d'union dans ce monde divisé, dans ce monde d'iel. Donc, la synthèse est plus qu'une affaire d'esthétique, c'est une affaire, comme je dis, de division du monde. Et cette idée de synthèse suppose, pour Le Corbusier, un effort pour récupérer la racine du mot poétique. Poétique veut dire penser et faire tout dans les mêmes mots. Pas seulement faire un commentaire poétique du monde, mais prendre l'essence même du monde. On comprend mieux si on voit cette idée de synthèse, on comprend mieux comme dans cette année les mots poésie, poétique, poème qui sont apparemment si loin de la du fonctionnalisme froid qu'on suppose à Le Corbusier. Alors, ça ne marche pas, un fonctionnaliste qui parle toujours du poème, poétique, poésie. Donc, pour Le Corbusier, il s'agit alors d'une idée de synthèse dont les valeurs théoriques se superposent comme des nappes. Synthèse veut dire, pour Le Corbusier, remplir cet abîme que jamais devrait être ouvert entre la tête et la main, entre la pensée, entre les pensées et les faire, entre l'artiste et l'artisan, entre la main et la tête, comme je dis. Et on revendique en somme les très étroits rapports existants entre les pensées et le faire, et entre l'architecture et l'activité poétique. Et c'est dans ce contexte où Le Corbusier commence maintenant une chose très importante, à parler de l'importance non seulement de la main à côté de la tête, à côté de la pensée, mais aussi et de lui, de l'oreille. Et il commence à parler d'une idée clé dans sa poétique, ce qu'il appelle l'acoustique plastique. L'acoustique plastique prête une attention de plus en plus grande aux problèmes d'acoustique, aux problèmes physiques de l'acoustique en architecture, bien sûr, mais aussi à l'idée que la tradition occidentale a privilégié d'une manière très abusive les sens de la vie. Et il faut parler maintenant aussi de la main et surtout de lui, de l'oreille, de l'acoustique dans le sens, on pourrait dire, pas technique des conditions acoustiques d'une salle, mais dans un sens plus foncier. Les pavillons Philips, voilà sur l'écran, les pavillons que Le Corbusier a fait pour l'expo de Bruxelles de 1958, représente les sommets de cette complémentarité entre son et image, entre son et vision. Le Corbusier même écrit à ses propos, à propos de ses pavillons, les poèmes électroniques de Le Corbusier, il parlait toujours en troisième personne, comme Jules César. Le Corbusier dit, les poèmes électroniques de Le Corbusier au pavillon Philippe est la première manifestation d'un art nouveau, le jeu électronique, synthèse limitée de la couleur, l'image, la musique, les mots, et la parole et le rythme. Grâce à la combinaison entre l'architecture de Le Corbusier et de Yanis Xenakis, vous savez, Yanis Xenakis était musicien et ingénieur, et c'est en qualité d'ingénieur qu'il travaillait dans le bureau d'architecte, dans l'étude de Le Corbusier. C'est à cette collaboration entre Le Corbusier et Yanis Xenakis et à la collaboration musicale d'Edgar Varèse que le pavillon de Bruxelles est un bâtiment où la chose la plus importante, c'est, ou au moins si important que le bâtiment, c'est l'intérieur où Le Corbusier, Xenakis et Varèse montrent ce que Le Corbusier baptise comme le poème électronique, un grand poème, on pourrait dire entre guillemets, un grand poème où Le Corbusier profitait la chose la plus avancée que les moyens audiovisuels de l'entreprise Philippe pouvait fournir à ce moment-là. Et donc, c'est un grand. Je vous recommande de voir les poèmes électroniques complets. On peut les faire à Internet. On peut voir les poèmes complets. Et dans le pavillon de Bruxelles, la forme plastique du bâtiment était aussi une évocation de l'idée de l'attente. De la tente du nomade. La tente du nomade, c'est le troisième archétype ancestral de l'habitat humain, avec la cabane et la caverne. Et Le Corbusier parlait, avait une idée très, très ferme sur la condition nomade de l'habitant des villes. Et il parlait du pavillon de Bruxelles comme un bâtiment qui exprimait ces conditions nomades. Au pavillon de Bruxelles, le contenu était aussi une grande œuvre d'art totale, un Gesamtkunstwerk où il y avait les films, il y avait la musique, il y avait l'espace architectural comme un grand estomac. Le Corbusier parlait du pavillon de Bruxelles comme un grand estomac où les personnes qui étaient digérées et sortaient par la porte de sortie du pavillon tout à fait transformées pour cette espèce de digestion qu'on a fait sur les personnes avec les poèmes électroniques. Et il parlait aussi à Bruxelles des murales nomades. Le mural nomade, c'est un mot de Le Corbusier. Le Corbusier aimait toujours de créer de nouveaux mots. Il a baptisé ce qu'on appelle normalement des tapisseries. Et il ne parlait jamais de tapisserie. Il disait mural nomade. Les tapisseries, c'est la peinture murale dit nomade des villes modernes. On ne peut pas faire des peintures murales pour des personnes qui louent des appartements et qui changent plusieurs fois de résidence. Donc, la tapisserie, il faut récupérer la tapisserie comme le mural dit nomade. Le mural nomade qui peut artistiser, on pourrait dire, l'intérieur de l'habitation de chacun. Dans ces lignes, il faut se souvenir aussi du Carpenter Center for Visual Arts à Harvard. C'est une commande de Le Corbusier faite par son ancien collaborateur, l'architecte espagnol José Luis Josep Lluís Sert, qui, dans les temps, était devenu le doyen d'architecture de Harvard et qui fait à Le Corbusier, son ancien maître, la commande de ce bâtiment pensé, ce bâtiment qui existe, c'est la celle avec la maison Curuchet à l'Argentine, c'est la seule construction de Le Corbusier en Amérique. Et c'est un bâtiment un peu bizarre avec cette espèce de reine, un bâtiment où on pouvait. Il y avait des ateliers d'art pour faire des travaux d'art d'un genre tout à fait mêlé, varié, diversifié. Le Carpenter Center, c'est un bâtiment dont je n'ai pas le temps de faire toute une explication de ce bâtiment, mais il faut se souvenir d'une chose que jamais est dite à propos de ce bâtiment qu'on a découvert tout récemment dans des documents de la Fondation Le Corbusier. C'est un bâtiment qui était pensé avec l'incorporation de la musique. C'était un bâtiment où l'architecture et la musique étaient tout à fait liées et où la conception architecturale même était pensée pour la musique. La musique, disait Le Corbusier, est si importante pour ce bâtiment que les bétons ou les verres. Mais il ne s'agit pas seulement de la vie et de l'ouïe, de l'oreille, mais aussi du tact, de la main. La main est vraiment un concept mythique pour Le Corbusier. Le Corbusier parlait toujours de la main ouverte. La main ouverte est le symbole de ce qu'il considère le rôle de l'artiste. C'est une main qui doit ramasser les richesses spirituelles du monde, mais une main qui ne se ferme pas sur sa richesse, mais qui continue ouverte pour faire toute une redistribution. C'est vraiment le rôle de l'artiste comme médiateur entre le monde et la société. Pour Le Corbusier, la main ouverte exprimait la vraie étymologie latine du verbe capio. Capio en latin est vraiment prendre une chose, mais veut dire aussi comprendre. Capio est prendre, mais aussi comprendre. L'acte même de prendre quelque chose, c'est un acte aussi de connaissance. C'est un acte de connaissance du monde. Donc, c'est toute une approche entre la main et l'esprit, entre la main et la tête, ce qui est symbolisé dans cette idée de la main ouverte. C'est l'approche entre les mains, les doigts croisés un symbole très, très, très souvent utilisé par les Corbusiers, ce sont les doigts, dans ces cas, ce sont les doigts de l'architecte et de l'ingénieur. Le même symbole sera utilisé par les Corbusiers pour signifier d'autres choses, toujours pour signifier cette idée de synthèse, des choses auparavant séparées. Voilà, c'est une chose émouvante, un tout petit dessin que j'ai trouvé aux archives de la Fondation Le Corbusier. C'est l'adieu de Le Corbusier à sa femme, Yvonne. C'est un petit dessin au crayon dans le moment même de la mort d'Yvonne Le Corbusier. Ce sont des mains dans un point un peu plus personnel. Donc, il faut revenir à la question de la synthèse des arts. Il faut se souvenir des étapes où Le Corbusier va profiler cette vision de la synthèse des arts. Il faut se souvenir, par exemple, d'un livre très, très important et très oublié, le livre que Le Corbusier publie en 1938. Et voilà le titre, des canons, des munitions, merci, des logis, s'il vous plaît. Et c'est un livre un peu prophétique si l'on pense qu'il a été écrit en 1938. Et c'est un livre pour expliquer la conception du pavillon des temps nouveaux construit par Le Corbusier à l'Expo universelle de 1938. 37 à Paris. Dans ce livre malheureusement si prophétique, en 1938, Le Corbusier disait « Les pavillons des temps nouveaux, les pavillons de l'Expo de 1937, n'étaient pas décorés. L'architecture et les arts plastiques ne sont pas des choses juxtaposées, sont une chose entière, solide, cohérent. On ne fait l'architecture et puis on la décore. On fait les deux choses d'une manière absolument inséparable. Mais c'est après la guerre, avec tous les chocs de la Deuxième Guerre mondiale, où Le Corbusier écrit ce texte absolument fondamental, L'espace indécible, un texte qui est écrit en 1945 et publié en 1946 sur les pages de l'architecture d'aujourd'hui, et qui était censé comme la première idée d'un livre qui jamais fut écrit. Le Corbusier, dans cet article, situe la question de la synthèse des arts dans les terribles contextes du monde en ruine de 1945. Il parle de l'exigence, il dit, nous, architectes, artistes, écrivains, intellectuels, nous avons les devoirs, l'exigence, la responsabilité d'une vraie refondation spirituelle du monde, sous le signe, il continue à parler, Le Corbusier, sous le signe de l'harmonie. L'harmonie doit présider cette refondation parce que, pour Le Corbusier, une chose qui nous a porté à la catastrophe est l'obsession de l'époque moderne pour les spécialisations. On spécialise, donc on divise, on fait des parties séparées dans l'être humain. Alors, en 1945, Le Corbusier dit c'est le moment de retourner à l'unité, de retourner à combler l'abîme de cette spécialisation qui jamais devrait être ouverte. Dans cet espace indicible, Le Corbusier continue à parler de l'acoustique plastique, de cette idée de l'acoustique plastique. L'art, ce n'est pas seulement une affaire de cieux, mais aussi de l'acoustique, de lui. C'est une harmonie non seulement visuelle, mais aussi acoustique. En fait, les pavillons de l'oreille humaine fait son apparition dans Sèvres plastique d'une manière accablante dans sa production des années 40 et 50. Voilà ça c'est un peinture de la suite Ozon. Ozon, c'est un petit village des Pyrénées où les Corbusiers passent une grande partie de la Deuxième Guerre mondiale, et avec ces peintres de la suite Ozon, dont il y a beaucoup de peintres très semblables qui prennent pour sujet Ubu, le personnage d'Alfred Jarry. Mais en tout cas, c'est toujours le pavillon toujours à l'écoute. Et aussi dans ces sculptures, qui est une chose très, très peu connue de l'œuvre de Le Corbusier, il faisait des sculptures avec un tout étrange travail artistique en collaboration. Le Corbusier voulait être sculpteur, mais il savait bien qu'il n'avait pas les connaissances techniques de le sculpteur. Alors il a connu dans son exil en Bretagne pendant la guerre, il a connu un ébéniste breton, Joseph Savinet, un ébéniste de Tréguier, qui pour Le Corbusier représentait les mythes, l'archétype d'Yvon artisan, une espèce d'Yvon sauvage qui fait ses pièces d'artisanat avec un rapport, disait Le Corbusier, très très étroit avec la nature. Alors il a établi un accord avec Joseph Savinat, moyennant lequel Savinat sculptait les figures en bois et Le Corbusier apportait la polychromie. Voilà Joseph Savinat et Le Corbusier en travaillant tout ensemble dans ces sculptures à deux. Il y a toute une question dans les spécialistes de Le Corbusier si l'on peut considérer cette sculpture comme des vraies œuvres de Le Corbusier. Il y a toujours le préjuge de l'œuvre d'art comme une chose individuelle, de l'artiste du génie et tout ça. Et alors une chose fait à deux, c'est un peu... c'est fait un peu des malaises pour la théorie artistique. Et il y a aussi voilà un autre exemple de tout ça, et voilà la chapelle de Ronchamp. Vous connaissez bien, cette photo n'est pas la vision normale qu'on voit de la chapelle de Ronchamp. C'est la photo normale de Ronchamp, et les grands toits en chaise. Et en chaise de cheval, je ne sais pas comment on dit en français. Mais quand on voit la chapelle de Ronchamp de derrière, on peut voir une chose dont Le Corbusier même a parlé. Il a conçu les grands tours de cloches de Ronchamp comme... de vrais diaphragmes, de lier d'où sortait la musique religieuse pour remplir toute la vallée, tous les très très beaux ballets, la très très beau ballet de Ronchamp. Mais aussi, ce sont des pavillons auriculaires tout prêts à écouter, comme disait Le Corbusier, les résonances du paysage, la musique du paysage. Cette musique que l'homme normal n'écoute pas, mais que l'artiste doit écouter. Alors, ces tours de Ronchamp sont vraiment des pavillons à l'écoute de ce qui nous dit le paysage. On verra, quand on parlera des poèmes de l'angle droit, comme pour Le Corbusier, parler de lui, de l'oreille, c'est toujours aussi parler de l'équilibre. Dans lui interne, il y a les canaux ou les liquides établit l'équilibre de l'être humain. Et alors, c'est une chose qui a un rapport avec l'équilibre du monde, mais de cet aspect, on parlera à propos du poème de l'angle droit. L'espace indicible dont parle le Corbusier, dont n'est déjà plus un espace mathématiquement contrôlable, moyennant les instruments de la géométrie, de la perspective ou de la proportion, mais un espace qui inclut, qui a aussi un composant qui n'est pas mesurable, qui n'est pas un composant qui fait partie de l'émotion, de l'ineffable, de ce qu'on ne peut pas enregistrer, mesurer, nommer très exactement, mais qui a un rapport surtout avec cette idée du je ne sais quoi. C'est une chose, une catégorie esthétique qui parle de ce qui ne peut pas être contrôlé strictement. Et Le Corbusier parle de l'espace indicible avec des mots qui mettent en rapport l'art avec la religion. Le Corbusier dit, entre guillemets, « J'ignore le miracle de la foi, mais je vois souvent le miracle de l'espace indicible, couronnement de l'émotion plastique. » C'est cet espace indicible, c'est lui qui partage l'architecture et les arts plastiques. Le Corbusier continue développant cette idée, par exemple, en 1946, dans le quatrième volume de son œuvre complète. Et il y a des textes très importants sur la question. Le texte avec le titre « On s'approche d'une synthèse ». Et c'est un test où Le Corbusier parle du monde qui s'ouvre après la guerre comme le monde de la synthèse. Il dit qu'il faut synthétiser la ville et le champ, soit la ville urbaine et l'agriculture. Il faut faire une synthèse entre la partie fonctionnelle, mécanique de l'homme et la partie de l'émotion. Mais c'est surtout le texte qui porte comme titre L'événement plastique, The Plastic Event, publié en français et en anglais. Et dans ce texte, Le Corbusier dit face à la spécialisation, maintenant est ouverte l'époque des constructeurs. Les constructeurs, ce n'est pas un architecte, ce n'est pas un peintre, ce n'est pas un sculpteur, c'est un homme, c'est un artiste qui est toutes ces choses en même temps. Et c'est en 1948, une autre fois sur les pages de l'architecture d'aujourd'hui, et où Le Corbusier publie l'article, le grand texte qui résume tout ça, c'est l'article Unité, dont le titre est tout à fait significatif. Et dans ce texte Unité, Le Corbusier critique, par exemple, critique très durement la figure de l'architecte qui a été configurée d'une manière par la loi du gouvernement de Vichy en 1940 et qui est restée jusqu'à nos jours. Vichy, le gouvernement du maréchal Pétain, avait publié les règles professionnelles de l'architecture, l'ordre des architectes et tout ça. et on acceptait seulement dans la loi, on acceptait seulement trois personnes du complément de la loi, c'était les Corbusier, Eugène Frayssinet et Auguste Perret, les Corbusier même. Et les Corbusier disaient, dans cette loi, dans cette régulation légale de la profession d'architecte, on a perdu l'occasion de faire cette synthèse. On a continué avec les spécialisations, on a continué avec la séparation entre l'architecte et tout le reste des artistes. Et c'est le moment aussi où, en 1955, Le Corbusier fait une préface à un livre très très important et à mon avis très très méconnu. Je ne sais pas, c'est le livre de Paul Damas, Art in European Architecture, l'art dans l'architecture européenne. C'est un livre très très important où Paul Damas cherchait à faire un parcours sur le rapport entre l'art et l'architecture dans l'architecture moderne européenne. Voilà, ça, c'est une page où on montre comme un exemple de collaboration entre architecture et peinture. Les peintures de Le Corbusier sur les murs de la maison de Jean Badovici à Cap-Martin, ou par exemple le projet de Fernand Léger pour la peinture extérieure de l'hôpital de Saint-Lô. Voilà, ça c'est, on peut se faire une idée du livre de Paul Damas, un livre avec beaucoup, tout un tas de photographies. Et Le Corbusier parlait de ce livre comme une chose extraordinaire. Il fait un préface pour la deuxième édition de ce livre. Et il faut finir. Et il continue à parler de toutes les diverses manières, toutes les différentes manières où cette synthèse peut se développer. Par exemple, à propos des tapisseries, j'ai déjà parlé de l'importance de ces murales nomades. C'est une tapisserie de Le Corbusier qui s'appelle les trois musiciens. C'est l'idée de la femme, l'idée de la musique. C'est une chose très complexe dont on parlera dans la prochaine conférence. Et je finirai seulement avec le souvenir d'un projet très important et très peu connu parce qu'il n'était pas réalisé. C'est le projet conçu par Le Corbusier en 1950 pour un espace d'exposition espace souple, très, très souple pour des expositions artistiques à la Porte Maillot. La Porte Maillot, c'est un lieu que vous connaissez bien, c'est un lieu maintenant très, très difficile de l'urbanisme parisien. Et pour Le Corbusier, en 1950, la Porte Maillot présentait la possibilité de faire là une cristallisation, une œuvre qui exprimerait cette idée de synthèse de Sartre. Voilà le projet. Le projet est très, 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 très simple. Le Corbusier, le point de départ de Le Corbusier qui présente ce projet dans l'association pour une synthèse des arts plastiques, une association qui a été fondée en 1949, qui a sa première réunion dans l'appartement de Le Corbusier. C'est ce magnifique appartement qui se conserve toujours au numéro 24 de la rue Nangesser et Colli, que je vous recommande de visiter si vous ne connaissez pas, parce que c'est l'appartement que Le Corbusier a construit pour avoir son habitation et aussi son atelier d'artiste. Et on le conserve d'une manière magnifique par la Fondation Le Corbusier. Et là, on avait fondé, comme je vous disais, l'Association pour une synthèse des arts plastiques. Et Henri Matisse avait été élu président de l'association. Le Corbusier était le vice-président. Et il y avait aussi des personnages comme Picasso, Vasarely, Siegfried Gideon, Hans Arp, Bernard Serfus, Henri Laurent, Georges Braque, et toute une liste extraordinaire. Et alors, pour des discussions de cette association, on a sorti avec l'idée de faire à la Porte Maillot un espace d'exposition d'un type tout à fait nouveau, tout à fait moderne. Comment penser une salle d'exposition moderne? Alors, Le Corbusier répond d'une manière très très simple. On ne sait rien sur ce que sera l'art contemporain, sur ce que sera l'art du futur. Alors, il faut penser et faire un espace qui soit tout absolument souple, qui puisse auberger des manifestations, des expositions, des ateliers, des choses que maintenant on ne peut pas même penser, parce que le développement de l'art du futur très très immédiat, on ne peut pas le savoir. Alors la réponse de l'architecture est de fournir non un caisson absolument dur, rigide, qui détermine d'avance l'art qu'on pourra faire dedans de cet espace, mais un espace qui soit capable de tout permettre dans l'art du futur. Alors l'idée est très très simple, comme beaucoup des idées de Le Corbusier, c'est la complexité du simple, c'est la complexité de la chose plus simple. Le Corbusier invente des grands parapluies dans une première version en voie, ce qu'on appelle projet A et projet B. Le projet A est en bois, le projet B, ce sont des parapluies métalliques. Et seulement, on fournirait un espace couvert, un espace où on aurait une espèce d'archétype du toiture, d'archétype du toit, d'archétype du couverture de l'être humain, et un système qui est variable, qu'on peut démonter, qu'on peut porter dans d'autres lieux. Et ça, c'est important parce que Le Corbusier parlait de toute une idée d'échanges artistiques internationaux, de tout un mouvement international d'échanges d'artistes. Alors il faudrait seulement démonter cet espace, l'emballer, le mettre dans les bateaux et le porter à Copenhague ou à Rio de Janeiro ou au Canada. Alors ça c'est une idée, toute une idée d'une espèce d'international des arts. Dans ces projets, c'est spécialement intéressant la collaboration de Jean Prouvé. Jean Prouvé, c'est une figure qui maintenant commence à être rachetée de l'oubli. L'histoire de l'architecture a été écrite souvent d'une manière très, très spéciale. On a parlé de l'histoire de l'architecture comme une espèce d'agiographie où les saints étaient Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto, et tout ça. Et il y avait des figures très peu commodes pour les classements universitaires tout simplement on les laissait dehors de l'histoire. C'est le cas de Jean Prouvé. Jean Prouvé était l'archétype du constructeur, du bâtisseur, tel qu'il le pensait Le Corbusier. Et Jean Prouvé est l'auteur de la partie d'ingénierie de ce projet, mais il faut, je dois finir, il faut se souvenir des mots où Le Corbusier parle de Jean Prouvé, de ce génial constructeur de la Lorraine. Et Le Corbusier parlait de Jean Prouvé, Le Corbusier qui était un homme, il faut le dire, qui n'était un homme pour qui était vraiment difficile de parler des autres en termes positifs. mais il parle de Jean Prouvé, il dit, Jean Prouvé exprime d'une manière singulièrement harmonique le type dit de constructeur qui encore n'est pas accepté pour la loi, mais que notre époque réclame, exige. Je veux dire avec ces paroles que Jean Prouvé est d'une manière inséparable architecte et ingénieur, et architecte et constructeur, parce que tout ce qu'il touche prend immédiatement une élégante forme plastique. Il continue à parler d'une manière très grande louange de Jean Prouvé, parce que Jean Prouvé, comment on dit, représente la. Ce n'est pas de Jean Prouvé comme personne qui parle, mais de la figure de cette personne qui n'est pas architecte, n'est pas sculpteur, n'est pas seulement peintre ou décorateur, mais est surtout un grand bâtisseur du monde. Le projet de la porte Maillot n'a été pas réalisé, mais il y a quelque chose de l'esprit de ce projet dans le pavillon que Le Corbusier commence à construire à Zurich pour sa marchande Heidi Weber. Heidi Weber, c'est une dame zurichoise qui est encore vivante, très vivante, il faut le dire, avec ses 80 ans. Et j'ai eu l'honneur de curer une exposition de sa collection privée des œuvres de Le Corbusier. Et c'est pour Heidi Weber à Zurich que Le Corbusier construit les grands pavillons qu'on peut voir maintenant aux abords du lac de Zurich. C'est toute une synthèse. Alors, si on a parlé aujourd'hui toujours des synthèses, il faut se souvenir de ces bâtiments comme un grand toit, le toit par excellence, l'origine de l'architecture, un grand toit séparé, détaché, qui abrite des cubes avec les mesures du modulor, où est le métal, le béton de la rampe. Tous ces bâtiments, c'est une synthèse. Et je vous montre les modèles parce que c'est le modèle fait par Le Corbusier. Ça n'offre pas de doute. Mais Le Corbusier est mort en août 1965 sans finir ces bâtiments. Alors il y a toute une discussion, tout un débat sur si l'on peut ou non considérer ces bâtiments comme un bâtiment de Le Corbusier. C'est pour ça que je vais vous montrer les bâtiments tels qu'ils se dressent maintenant à Zurich, mais seulement les modèles. Mais les modèles, on peut sans doute les considérer comme l'aboutissement de cette idée d'une synthèse, d'une architecture qui est architecture dans le sens qui met sous l'abri de l'architecte tous les arts, la peinture, la sculpture, et surtout qui met en question l'idée de la spécialisation de l'époque moderne. Et on continuera avec tout ça en parlant du poème de l'anglais droit vendredi prochain. Et maintenant, on finit et je vous remercie de votre attention. Et mes excuses une autre fois pour mon français.